Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission mensuelle, le Curious Live sur RCF. On se retrouve pour le 9e épisode de la saison et on est aujourd'hui accompagné d'Emma, Clément et Guillaume pour vous parler de celles et ceux qui ont contribué à la construction du patrimoine bourguignon. Avant de se plonger dans le sujet, j'aimerais quand même interroger nos invités sur notre belle région. Je crois que vous n'êtes pas tous originaires de Bourgogne, mais vous commencez quand même bien à connaître la région. Est-ce que vous avez peut-être quelques petites anecdotes à nous raconter? Emma, est-ce que tu veux bien commencer?
Oui, alors moi, mon anecdote, elle remonte à l'époque gallo-romaine. Donc en fait, l'ancien nom de la ville de Dijon, c'était Divio. En fait, c'était un vicus et c'est en fait une agglomération secondaire romaine. Et Divio, je trouve que ça ressemble beaucoup au réseau de transport en commun Divia. Et je pense qu'ils s'en sont bien inspirés du coup de l'histoire de la ville pour créer le nom de l'entreprise.
Effectivement, bah, super anecdote, je ne savais pas du tout. Clément, est-ce que tu veux bien poursuivre?
Oui, alors moi je vous emmène sur la Lune puisqu'on y trouve une partie de Bourgogne. En effet, c'est un clin d'œil au roman Autour de la Lune de Jules Verne, dans lequel des astronautes trinquent autour d'un verre de Nuit Saint-Georges. Donc 100 ans plus tard, les astronautes de la mission Apollo 15 ont décidé d'en faire de même, avec une étiquette d'un vin de Nuit Saint-Georges puisqu'ils n'ont pas pu emmener une bouteille sur la Lune pour des raisons pratiques. Et ils ont déposé cette étiquette dans un cratère qu'ils ont renommé Saint-Georges, voilà, en hommage à la ville de Bourgogne.
Bon, eh bien, on voit que même sur la Lune, le vin nous suit partout en Bourgogne. Guillaume, est-ce que tu veux bien poursuivre?
Pour ma part, ce sera une anecdote historique dont on ne peut pas spécialement être fier en tant que bourguignon. On connaît tous Jeanne d'Arc et on sait tous qu'elle a été capturée puis condamnée au bûcher par les Anglais. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elle a été livrée par les Bourguignons aux Anglais en échange de 10 000 écus, qui représente une somme rondelette.
Effectivement, c'est vrai que c'est un petit peu moins fun. Étienne, peut-être que toi aussi, tu as quelque chose à nous raconter.
Oui, alors nous sommes en 1240, c'est une très belle journée, lors de laquelle on célèbre le mariage d'un riche usurier, un mariage donc en grande pompe. Sauf que malheureusement, une fois sous le porche de l'église Notre-Dame, l'une des gargouilles tombe sur la tête du futur marié et le tue sur le coup. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que la gargouille en question, elle représentait l'avarice. Et donc après cet accident, tous les usuriers de la ville se sont cotisés par peur en fait pour détruire toutes les autres gargouilles. Mais rassurez-vous, toutes les gargouilles ont été reconstruites plus tard en 1881.
Ben merci Étienne, c'est vrai qu'on en apprend tous les jours sur RCF. Merci à vous pour le petit partage d'anecdotes. Effectivement, la Bourgogne regorge d'histoire. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut parler de l'histoire de la région et son patrimoine sans évoquer les ducs de Bourgogne? Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces puissants personnages qui ont quand même failli, à l'époque, détrôner le roi de France et faire de Dijon la capitale du royaume?
Donc effectivement, Camille, on ne peut pas parler de la Bourgogne sans parler des ducs de Bourgogne. Et on ne peut pas parler des ducs de Bourgogne sans mentionner Philippe le Hardi, qui était le quatrième fils de Jean le Bon, roi de France à l'époque, ainsi que de Bonne de Luxembourg, duchesse de Normandie. Il faut savoir que c'est Philippe le Hardi qui a fait construire la forteresse de Dijon, qui est aujourd'hui le palais des ducs, qui contient la mairie. Donc Philippe le Hardi est le premier duc de Bourgogne de la maison des Valois, le fondateur de la dynastie.
C'est vrai que c'est intéressant d'en connaître un peu plus sur le parcours de vie de ces fameux ducs, parce qu'on en entend toujours parler, mais assez brièvement et sans vraiment avoir plus de détails sur eux. Alors en plus de Philippe le Hardi, qui a quand même marqué l'histoire des ducs de Bourgogne, comme tu viens de nous le dire, moi il y a un nom qui me reste très souvent en tête pour les ducs de Bourgogne, c'est Philippe le Bon. Est-ce que peut-être tu aurais plus de précisions sur lui également ?
Alors absolument. Alors Philippe le Bon, c'est le fils de Jean sans Peur, deuxième duc de Bourgogne, et de Marguerite de Bavière. Donc il est le plus connu des ducs pour une bonne raison, c'est que c'est sous son autorité que le duché de Bourgogne s'est le plus agrandi. Il a annexé le Luxembourg, une partie des Pays-Bas, ainsi qu'une partie de la Belgique. En événement notable, on peut citer le fait qu'il a signé un accord pour soutenir les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, mais il est aussi connu pour avoir signé un autre traité, cette fois-ci avec le royaume de France, où, en échange de certains territoires français, le duché de Bourgogne redevient en paix avec le royaume de France. Alors, on peut conclure cette rapide présentation des ducs en parlant de Charles le Téméraire, qui est le quatrième et dernier duc de Bourgogne, donc le fils de Philippe le Bon et d'Isabelle de Portugal. Charles le Téméraire porte très très bien son surnom, parce qu'il a voulu faire aussi bien que son père en matière d'expansion territoriale, mais il a été tellement gourmand qu'il s'est mis à dos la Confédération Suisse, qui s'est alliée avec les Alsaciens et les Lorrains. Et cette petite coalition a été soutenue par le roi Louis XI, roi de France de l'époque, ce qui a engendré la mort de Charles le Téméraire en 1477, lors de la bataille de Nancy.
Comme tu viens de nous le dire, Guillaume, c'est donc sous le règne de Philippe le Hardi que le palais des ducs et des états de Bourgogne a vu le jour à Dijon. Aujourd'hui, c'est quand même un véritable emblème de la ville, notamment avec sa tour Philippe le Bon, mais aussi avec le musée des Beaux-Arts. Qu'est-ce qui fait réellement de ce bâtiment un monument historique du patrimoine dijonnais, Clément ?
Eh bien alors tout d'abord, c'est un bâtiment qui a plus de 650 années d'existence, ce qui est quand même énorme. C'est un monument historique depuis 1926 également. Et donc comme tu l'as dit, il abrite le musée des Beaux-Arts, la tour Philippe le Bon, mais aussi l'hôtel de ville de Dijon. Donc c'est un endroit qui est encore très important pour la politique dijonnaise. Et donc cette tour Philippe le Bon, c'est une tour de 46 mètres de haut et qui représente l'autorité ducale de Philippe le Bon dont Guillaume a parlé juste avant. Elle est également appelée la tour de la terrasse. Elle a la forme d'un trapèze dans sa face nord. Ses derniers étages ont des encorbellements et des fenêtres. Et donc ces derniers étages sont aussi aménagés en appartements. Le tout dernier étage d'ailleurs est particulièrement soigné. Il a une cheminée monumentale, de belles fenêtres et l'escalier est très bien décoré des motifs emblématiques et représentatifs de la Bourgogne.
Et si on élargit un petit peu notre périmètre et qu'on reste pas uniquement à Dijon, il y a quand même d'autres sites historiques en Bourgogne qui ont une histoire bien particulière avec des personnages qui ont contribué à celle-ci. Emma, est-ce que tu veux bien nous en citer quelques-uns ?
Alors c'est vrai que la Bourgogne, elle a vu passer de nombreuses personnes de renom et certaines ont donc marqué la région en laissant derrière eux des vestiges que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Je pense surtout à notre cher Vauban et ses structures emblématiques. Donc Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, qui est né en 1633, est originaire du nord du Morvan et donc c'était un architecte ingénieur militaire qui est très connu pour son savoir-faire et son expertise, et donc il a reçu le château de Bazoches de la part du roi Soleil en guise de gratification, qu'il a ensuite réaménagé. Et donc ce savoir-faire, on peut le retrouver aussi, ces architectures, à travers différents endroits de la France, et qui sont même certains reconnus dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc pour en citer seulement quatre, il y a les forts de Saint-Malo, la cité fortifiée de Neuf-Brisach, ou un peu plus proche de chez nous, la belle citadelle de Besançon ou bien les fortifications de Belfort. Et une seconde personne qui a quand même bien marqué le patrimoine de Bourgogne, c'est Saint-Bernard et l'abbaye de Fontenay. Saint-Bernard faisait partie de l'ordre cistercien au XIIe siècle, où le berceau était la ville de Citeaux. Et c'était un mouvement spirituel qui s'est étendu dans toute l'Europe. Et en fait, en 1118, Saint-Bernard a décidé de fonder l'abbaye de Fontenay à Marmagne, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est l'un des rares édifices aujourd'hui à être aussi bien conservé. Et c'est un vrai site exceptionnel par son style et son architecture romantique. Il y a vraiment une atmosphère sereine là-bas.
Et il me semble d'ailleurs que l'abbaye de Fontenay figure dans les présélections pour l'émission Monuments préférés des Français 2022. Donc il faut surtout pas hésiter à aller voter pour cette belle abbaye qui est quand même, il faut le dire, l'un des incontournables de la région. En tout cas, merci beaucoup Emma. Et après toutes les informations sur ces monuments du patrimoine bourguignon, on enchaîne sur une courte pause musicale avec justement un monument de la chanson française, France Gall. Donc il y a 42 ans, jour pour jour, le 19 mai 1980, elle sortait son album intitulé Paris-France, dans lequel on retrouve notamment l'immense succès Il jouait du piano debout, qu'on écoute tout de suite.
Ne dites pas que ce garçon était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. D'être lui, vous comprenez. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote. Il se mord du genre de neuf, quelques notes. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. piano qui pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Ma mémoire, il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout.
C'est le MAG, avec les étudiants du master MACI spécialisé en stratégie de communication internationale à Dijon, Camille Dacuna.
De retour en studio, on parlait des monuments historiques et des personnages de renom qui se cachaient derrière leur histoire juste avant, mais finalement la communication va jouer un rôle clé sur comment ces différents sites historiques vont être perçus par le public. Il y a un véritable travail de scénarisation autour de l'histoire en fait de ces monuments pour donner envie aux habitants, aux touristes de venir découvrir ces sites qui sont des véritables richesses, que ce soit pour une ville ou une région même. Étienne, puisqu'on est tout de même des étudiants en communication, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus du rôle de la communication du coup dans le domaine du patrimoine historique ?
Oui, avec plaisir. Alors il faut savoir déjà qu'est-ce que le principe de la communication ? Eh bien c'est de vendre un produit ou un service. Et là, dans ce cas-là, le patrimoine, eh bien c'est ni l'un ni l'autre. Donc on est obligé en fait de le transformer avant en quelque chose qui va être consommable pour pouvoir justement attirer du public. Et là vous me posez la question, donc comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien il faut donc répondre au désir des consommateurs, des visiteurs, en proposant des services. Ça va être tout type de service, ça va par exemple être des expositions, des concerts, plein d'événements en tout genre. Mais quand on fait de la communication ici pour le patrimoine, il y a une variable importante à prendre en compte, c'est que le fait que le patrimoine c'est en fait un héritage, donc ça fait partie du passé. La communication, elle va devoir jouer donc à la fois sur la mémoire et l'histoire du lieu, ce qu'on appelle en fait le temps long, tout en s'accordant avec les usages qui sont faits aujourd'hui dans le présent, avec notamment les services qui sont proposés, c'est ce qu'on appelle le temps court. Donc là, la communication, elle doit faire cohabiter deux temporalités.
Mais alors concrètement, quel va être l'impact de la communication sur la valorisation d'un patrimoine ?
Mais en fait, le rôle de la communication, il est double. Il y a d'abord cette valorisation économique, puisque évidemment, derrière toute campagne, derrière toute communication, il y a un projet économique. Mais il y a aussi une valorisation qui est sociale. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la création de sens. Ça veut dire qu'on va mettre en avant les valeurs qui sont portées par le patrimoine ici en question pour créer du lien avec le consommateur, avec le visiteur. Donc la communication, elle va jouer à la fois sur les perspectives économiques et les perspectives sociales pour pouvoir valoriser un patrimoine.
Et alors, si on revient sur la ville de Dijon, comment est-ce qu'elle va mettre en valeur son patrimoine ? Quelles sont, par exemple, les actions qui ont pu être mises en place ? Emma, peut-être que tu peux intervenir là-dessus.
C'est vrai que la ville de Dijon, elle organise de nombreux événements sur ses différents sites incontournables, notamment la tour Philippe le Bon, où ils organisent en fonction des thématiques, en fonction des saisons, par exemple l'Halloween qui devient la tour de l'horreur, ou bien le jardin d'Arcy, où ils organisent des concerts en été jazz au jardin qui est organisé début juillet. Donc le résultat, c'est que ça fait revenir beaucoup de touristes, et pas seulement des Français, mais aussi de différentes nationalités, ce qui prouve que Dijon est aussi une ville assez cosmopolite. Et sur la période estivale de 2021, on a vu qu'il y avait quand même plus de 7200 visiteurs pour la tour, donc ça fait un sacré nombre de personnes qui ont monté toutes ces marches. Et pour ceux qui souhaitent visiter les incontournables de la ville, l'Office de tourisme de Dijon propose le Dijon City Tour, qui leur permet donc de découvrir les secrets en fait de la capitale des Ducs de Bourgogne.
Et toi d'ailleurs, Emma, qui travaille aujourd'hui en alternance chez Côte d'Or Attractivité, on serait curieux quand même de connaître justement ton point de vue sur le patrimoine et ton rôle peut-être dans tout cela. Est-ce que tes diverses expériences, elles te permettent aujourd'hui d'être une pro du patrimoine bourguignon et de sa communication ?
Alors, je rejoins déjà ce que dit Étienne précédemment. C'est ce que j'ai pu remarquer pendant mon alternance, et c'est une alternance qui me permet en fait de connaître davantage la région et surtout d'apprendre beaucoup sur le patrimoine qui nous entoure. Vraiment, ça élargit mes connaissances. Et donc, même en communication, j'ai vraiment vu comment mettre en avant ce patrimoine envers un public qui est bien ciblé. Et de savoir rendre ces sites toujours attractifs par le biais de nouveautés, rénovations, activités diverses qu'on parle ensuite sur différents supports. Ça peut être aussi bien des supports presse avec des articles ou bien des chroniques radio par exemple. Et ce que j'ai remarqué, c'est vraiment voilà, les événements qui jouent un rôle très important, qui sont organisés au sein de ces sites patrimoniaux.
On peut voir effectivement que c'est une expérience professionnelle qui a l'air très très enrichissante sur le point de vue du patrimoine. Et on évoquait les ducs de Bourgogne en début d'émission, qui font partie donc intégrante du patrimoine de notre région et de comment celle-ci s'est développée. Mais il me semble qu'on a aussi quelques bourguignons qui, eux, ont contribué à la construction du patrimoine français de manière, on va dire, plus générale, voire même internationale. Clément, est-ce que tu aurais quelques exemples ?
Oui, alors je vais vous parler du bourguignon sans doute le plus célèbre au monde. Il s'agit de Gustave Eiffel, qui est né le 15 décembre 1832 à Dijon, où il y est resté jusqu'à l'obtention de son bac au Collège Royal avant de partir à Paris. La suite, on la connaît, il a notamment construit la tour Eiffel, mais il a également participé à la construction de la Statue de la Liberté réalisée par Bartholdi, le cadeau de la France aux États-Unis. Ça, on l'oublie un peu parfois que Gustave Eiffel y a également participé. Donc, quand on a la tour Eiffel et la Statue de la Liberté sur un seul même CV, on peut dire qu'on a eu une très belle carrière. Donc voilà pourquoi Gustave Eiffel est aujourd'hui sans doute le bourguignon le plus célèbre au monde. Alors il est retourné à Dijon à la fin du 19e siècle afin de devenir sénateur. Mais ça n'a pas du tout été au goût des Dijonnais, qui lui ont notamment reproché son absence de la cité des ducs pendant de nombreuses années. Et puis on lui a également reproché le scandale du canal de Panama, donc c'était un scandale de corruption à l'époque. Et Gustave Eiffel avait été condamné en première instance à de la prison. Il y a au final échappé puisqu'il a été prouvé innocent. Mais son image a été à jamais ternie de son vivant à Dijon, il en est donc parti à tout jamais. Il repose désormais à Levallois-Perret en banlieue parisienne, tout comme ses parents.
Et alors tu nous parles de la tour Eiffel justement, donc la fameuse dame de fer, mais les femmes dans tout ça, parce qu'il me semble que certaines femmes se sont quand même illustrées sur la scène internationale, est-ce que tu as peut-être un exemple à donner à nos auditeurs ?
Oui, alors une bourguignonne très connue, c'est Colette, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette, qui est née le 28 janvier 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, petit village de Lyon. Donc c'était une paysanne avant tout, Colette, mais elle est devenue par la suite une femme de lettres, une journaliste, une actrice ou encore une mime. Bref, bien des casquettes pour celle qui est devenue par la suite le symbole de l'émancipation de la femme, notamment de par sa bisexualité assumée. Elle est d'ailleurs la première femme en France à avoir reçu des obsèques nationales, c'était en août 1954. Mais malgré ces obsèques nationales, elle ne repose pas au Panthéon, mais au cimetière du Père-Lachaise, comme bon nombre d'autres artistes en France. Son histoire a d'ailleurs beaucoup touché aussi à l'étranger, puisqu'elle est l'une des romancières les plus connues et les plus lues à l'étranger. Mais elle a aussi eu le droit à son biopic en 2019, donc un biopic, c'est un film adapté sur sa vie, avec Keira Knightley dans le rôle principal, et qui a été très salué par la critique et par le public.
Eh bien, merci beaucoup Clément pour toutes ces informations. On parlait tout à l'heure de piano et il me semble d'ailleurs que plusieurs personnes autour de cette table sont des connaisseurs, connaisseuses en matière de musique. Je crois que plusieurs musiciens de renom viennent de Bourgogne, n'est-ce pas Guillaume ?
Totalement. Alors parmi ces musiciens de renom qui viennent de Bourgogne, on peut citer Florent Pagny, ainsi que Damien Saez. Et j'ai une anecdote au sujet de Damien Saez. Alors il faut savoir que ce dernier a fait des études de piano au conservatoire de Dijon et a eu un certain Monsieur Nedelchev en professeur. Il se trouve que moi aussi, j'ai fait des études de piano au conservatoire de Dijon et j'ai également eu Monsieur Nedelchev en professeur de piano.
Bon, et bien comme quoi, le monde est petit. Mais écoutez, c'est déjà la fin de ce 9e et avant-dernier épisode de la saison. Un grand merci en tout cas à nos chroniqueurs du mois, Emma, Clément, Guillaume et Étienne, pour ce moment d'échange très enrichissant. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de cette saison 2. À bientôt, 18h30 sur RCF, tout de suite, le journal local.